bon dernier jour des pains sans levain. Déjà, d'autres comme mon épouse et moi ont eu l'impression que c'est comme si on n'avait pas vu passer la semaine cette année. Reportez-vous, s'il vous plaît, à Ésaïe. On va commencer par un verset important, encourageant, dans Ésaïe, chapitre 56. Chapitre 56. Alors, cette semaine, on a, bien sûr, dans nos études puis dans nos réflexions, pensé au plan de Dieu et apprécié davantage ce qu'il fait pour nous, ce qu'il fait comme préparation de libération du monde bientôt. On a pris conscience davantage de son plan et de ce qui compte pour qu'on soit victorieux. Parce qu'il faut arriver au bout. Il faut être victorieux, il faut être persévérant jusqu'à la fin pour être là, pour être jugé digne d'échapper aux choses qui viennent, d'une part, et de naître dans la famille de Dieu. Alors, nous, on a un cheminement à faire d'ici là, et ce cheminement-là, il est possible pour entrer un jour dans la famille de Dieu, pour naître dans la famille divine en étant changé en être spirituel. Maintenant, Ésaïe 56, ici, c'est le contexte du temps de la fin. Nous sommes à cette période. C'est clair, quand on regarde les bulletins de nouvelles, quand on regarde la situation mondiale, nous savons que nous approchons d'étapes majeures. Ésaïe 56, versets 1 et 2. « Ainsi parle l'Éternel. Observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste. » C'est ça que Dieu nous demande lorsqu'il nous attire au Christ, qu'il nous révèle son plan et qu'il nous appelle à faire partie de son petit troupeau. Observer ce qui est droit et pratiquer ce qui est juste. Et c'est ce qu'on a examiné cette semaine dans nos vies pour faire mieux encore que ce qu'on faisait, puis s'encourager en voyant les choses qu'on a améliorées au cours de l'année. Observer ce qui est droit et pratiquer ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Et c'est particulièrement vrai pour nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Verset 2, « Heureux l'homme qui fait cela et le fils de l'homme qui y demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. » Alors ici, ça fait un résumé, si vous voulez, général de ce que Dieu s'attend de ceux qui l'appellent. Et une des bases de notre cheminement spirituel pour obéir à Dieu, c'est l'observance du sabbat. C'est un des signes majeurs qui identifie le peuple de Dieu. Ceux qui observent le sabbat de chaque semaine et en même temps les sabbats annuels, qui sont les jours de fête, comme le dernier jour des pains sans levain que nous observons aujourd'hui. Alors, ce qu'il décrit ici, dans le fond, c'est encore la mise en pratique de la fête des pains sans levain. C'est ça. Il dit « Observez le sabbat, mais non seulement ça, veillez sur votre main pour ne commettre aucun mal. » C'est une déclaration générale dans ce sens-là. Et aujourd'hui, nous allons voir dans le sermon une façon, et ça nous encourage, de nous assurer d'atteindre le but, d'arriver au salut, de faire partie de la famille de Dieu. Le titre du message aujourd'hui, « Fermeté vers le but ». Notre but, il est clair, Dieu nous l'a révélé. C'est de développer son caractère en nous pour être capable d'avoir entièrement confiance en nous, de sorte qu'il nous donne la vie éternelle, sachant que nous allons être loyaux tout le reste de l'éternité. Et c'est pour ça qu'il nous donne de passer par des épreuves, par des tests actuellement, pour qu'on lui démontre que malgré les obstacles, malgré les difficultés, malgré les moments de découragement, qu'on reste attaché à lui, qu'on tient à lui et qu'on tient à faire partie de son plan et à naître un jour dans sa famille. Si on le fait maintenant, dans les situations adverses que nous avons à vivre, Dieu sait que nous le ferons éternellement alors que nous n'aurons plus ces contraintes-là ni ces épreuves-là. Formidable de voir comment Dieu fonctionne, comment il travaille. Alors le titre donc, « Fermeté vers le but ». Être ferme, c'est quoi? C'est être déterminé. Vous savez, quand on veut quelque chose puis qu'on est déterminé pour l'avoir, c'est qu'on fait tout ce qu'il faut pour l'avoir. Hein? Alors, la fermeté, c'est d'être déterminé. Être fidèle dans le cas de l'engagement qu'on prend envers Dieu au moment de notre baptême, c'est de tenir, quel que soit le prix à payer, à être fidèle à cet engagement-là. à être solide, à être tenace. C'est ça, la fermeté. C'est une endurance en même temps. Je vous donne des synonymes, là. C'est le fait de persévérer, c'est-à-dire continuer, malgré les obstacles ou les creux de vagues qu'on peut avoir, de continuer quand même. Comme quelqu'un qui est dans une tempête, vous avez déjà été dans une tempête de neige, peut-être même à pied à l'extérieur, de devoir revenir, on a déjà vécu ça sur les fermes, de devoir revenir à la maison dans la grande poudrerie, on voit presque plus rien, mais on tient, on veut arriver pour revenir après notre journée de travail à la maison. Alors, on endure, on persévère, on tient parce qu'on veut arriver au but. C'est la même chose spirituellement. Ça a à faire aussi avec la volonté. Dieu, je veux y arriver. Aide-moi à vouloir avoir la détermination, le courage, la fermeté pour y arriver. Allez dans Genèse maintenant. Genèse chapitre 18. Un passage ou une situation que vous connaissez bien. Genèse chapitre 18. C'est intéressant, pendant que vous allez à ce verset-là, je me rappelle d'avoir lu et j'ai noté ici qu'est-ce que David a demandé à Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? Il a demandé son aide et David dit à Dieu à un moment donné dans le psaume 57, « Mon cœur est affermi au Dieu. Mon cœur est affermi au Dieu. » Puis ça, c'est dans la bouche d'un homme qui a été poursuivi par le roi que lui devait remplacer, qui a vécu des années en fuite, qui a été éprouvé de dure façon, et ce même homme-là, serviteur de Dieu, qui est juste un être humain comme vous et moi, là, ces gens-là de la Bible qu'on voit comme exemple, c'était des êtres humains comme nous, qui avaient des bonnes journées, des mauvaises journées, des moments de découragement, des moments d'enthousiasme, et qui devaient constamment, par contre, compter sur Dieu. Et David dit à Dieu dans le psaume 57, « Éternel, mon cœur est affermi. Donc, je veux y arriver, puis je ne lâcherai pas. » Aide-moi à ne pas lâcher, à tenir bon. Autrement dit, il dit, j'ai choisi d'être ferme par rapport à tes voies. Et nous, on doit faire la même chose. Dire à Dieu, tu m'as montré un idéal de vie incomparable, extraordinaire, qui implique non seulement quelques années de vie physique, mais d'innombrables années de vie éternelle qui n'auront pas de fin. Et il y a possibilité de réussir seulement avec l'aide de Dieu. Mais de notre côté, nous, on doit vraiment choisir, on doit décider d'être ferme. Et quand il y a des situations pénibles, difficiles, de le supplier tout de suite et de faire ce qu'il faut pour rester ferme. Comment nous affermir? Parce que là aussi, c'est comme un athlète qui devient de plus en plus spécialisé dans son sport, il doit s'entraîner. Et nous, on doit s'entraîner spirituellement en faisant un certain nombre de choses pour justement être plus ferme, plus solide, plus tenace. Alors, dans le sermon aujourd'hui, je veux qu'on voit quelques moyens à notre disposition pour qu'on devienne plus solide et qu'on ait cette assurance d'aller au but, d'y arriver. D'abord, allons voir Genèse 18, un événement survenu au moment de la fête des pains sans levain il y a longtemps. Une histoire que vous connaissez sans doute très bien, l'histoire de Lot et de ses deux filles. Mais je veux attirer votre attention là-dessus dans une optique particulière. Genèse 18 et le verset 20. Et l'Éternel dit, « Le cri contre Sodome et Gomorre s'est accru et leur péché est énorme. » Et ça nous fait penser à ce qu'on voit dans le monde autour de nous maintenant. Et ce cri-là monte encore vers Dieu, comme c'est arrivé à l'époque, au moment où Dieu a détruit Sodome et Gomorre. Dieu va bientôt intervenir sur la terre pour mettre un terme à la société humaine malheureuse que nous avons attirée sur nous par les mauvais choix que tous les êtres humains ont fait depuis le début de l'histoire humaine. Allez dans Genèse 19 maintenant. On va commencer au verset 1. Ici, c'est le moment où les deux anges que Dieu a envoyés pour détruire Sodome et Gomorre se présentent dans la ville. Regardez ce qui se passe. Début de verset 1, « Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. » Maintenant, allez au verset 3. Verset 3 nous dit ceci, mais on peut lire entre les deux pour voir le contexte. « Et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux, et il se prosterna la face contre terre. Puis il dit, « Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, et vous vous lèverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. » Non, répondirent-ils, « Nous passerons la nuit dans la rue. » Ils étaient venus pour explorer en même temps avant de détruire. Mais regardez le verset 3. « Mais Lot les pressa tellement, il a insisté, qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain. Ils mangèrent. » Alors, on voit que c'était sans doute la même période que nous vivons maintenant, à l'époque des pains sans levain. Et souvent, à l'époque des grands jours de fête de Dieu ou des saisons des grandes fêtes de Dieu, il y a des événements majeurs qui se produisent. Et là, il y en avait un qui allait se produire pas longtemps après, qui allait être la destruction de ces villes-là. Et on voit que les deux hommes en question, on parle d'eux comme des hommes, mais ce sont des anges, et ils ont pris la forme d'hommes, comme des anges de Dieu peuvent faire. Alors, on sait de par le contexte ensuite que les gens de la ville ont voulu venir pour attaquer ces hommes-là, pour avoir des relations sexuelles violentes avec eux et tout ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Allons plus loin, verset 12. On sait, vous pourrez lire le contexte, les anges sont intervenus, ils ont rendu les gens à l'extérieur aveugles et ils ont fermé la porte. Après ça, verset 12, la destruction de la ville se préparait. Alors, les anges avaient comme mission aussi de protéger Lot et ses enfants, plus que ses deux filles, ses enfants et les autres membres de la famille. Dieu est un Dieu de famille. Il leur a offert d'être protégés. Regardez bien. Les hommes, c'est-à-dire les anges, dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. » Parce que Lot n'avait pas seulement les deux filles à la maison, mais il y avait d'autres filles qui étaient mariées, qui vivaient dans la ville. C'est pour ça qu'il y avait des gendres dans la ville, Lot. « Car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. » Lot sortit et parla à ses gendres, qui avaient pris ses filles. Alors voici Lot, qui aime ses enfants, qui aime ses filles et ses gendres. Il y avait peut-être des petits-enfants aussi, là. Et il leur dit ce qui va arriver. Et il leur offre ce que Dieu leur a offert par la voix des anges, d'être épargnés. « Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Ils ont pris ça à la légère. C'est une blague que notre beau-père nous fait. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles, donc les autres restent en arrière, qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et le laissèrent hors de la ville. Alors, voyez-vous comment, dans certaines circonstances, Dieu peut intervenir pour protéger quelqu'un? On voit dans la Bible que Dieu est intervenu à différentes occasions pour protéger des gens de façon très spéciale, mais très variée. Des fois, des gens demandent par rapport au lieu de sécurité, puis la fuite et tout ça, comment ça va se passer? On verra dans ce temps-là. Il n'y a aucune indication biblique comme telle. Dieu a plusieurs moyens. Dieu n'est pas limité. On sert un Dieu qui est extrêmement puissant. Versets 23 à 26. « Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. » C'était une petite ville où Lot avait demandé de pouvoir se rendre. « Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorre du soufre et du feu. » De par l'Éternel, il détruisit ses villes, toute la plaine et tous les habitants des villes, et les plantes de la terre. Il ne restait rien. Ça a été brûlé totalement. Et regardez, verset 26, « La femme de Lot regarda en arrière, et elle devint une statue de sel. » La protection s'est terminée là. Et le voyage pour elle s'est terminé là. On peut imaginer facilement que pour elle, il y avait une lutte intérieure qui continuait à se poursuivre. On peut voir qu'elle s'est tournée en arrière, c'est qu'il y avait comme un regret d'avoir quitté Sodome. Il y avait sans doute des choses qu'elle aimait dans la ville. Et il y avait sûrement des choses intéressantes qui n'étaient pas... c'était pas toutes des choses mauvaises qu'il y avait dans la ville. Comme on voit dans la société actuellement, ce n'est pas toutes des choses mauvaises qu'il y a dans la société maintenant. Alors, la femme de Lot s'est retournée et ça indique qu'elle regrettait, qu'elle aimerait peut-être retourner en arrière. Quelles que soient les calamités et les horreurs qu'il s'y commettait, elle était comme prête à retourner en arrière. Mais Dieu a fermé la porte. à ce moment-là, parce que sa décision, si vous voulez, ou son choix était fait. Elle n'avait plus la détermination de suivre ce que Dieu avait ordonné et ce qu'il était en train de faire par ces deux anges-là qui les amenaient en sécurité. Elle a regardé en arrière, elle a ralenti, elle s'est arrêtée, elle a figé sur place. Elle a figé dans le temps aussi, parce que le temps s'est arrêté pour elle en même temps que sa vie s'est arrêtée. Vous savez, il ne faut pas ralentir, surtout au moment de la fin. Voyez-vous, il y a des grandes leçons pour nous là-dedans, c'est qu'elle était tout proche du but d'atteindre une protection totale de la part de Dieu. Elle était tout proche du but. Et nous qui sommes rendus au temps de la fin, il ne faut pas retarder de faire les choses qu'on a à faire. Il ne faut pas prendre à la légère les avertissements qu'on a, comme les gendres de Lot qui ont pris à la légère ce que leur beau-père avait l'amour de leur dire, les choses qui s'en venaient et ce qu'ils pouvaient faire pour en être épargnés. Il ne faut pas ralentir alors qu'on approche vraiment de la fin. Et parfois, on peut être, humainement parlant, porté à dire, bon, ça fait longtemps que je suis là, il n'y a rien de changé, le retour du Christ n'a pas eu lieu, ça va être encore long. Vous savez, on ne peut pas évaluer le temps qui reste. Dieu dit qu'on ne peut pas fixer de date. Mais on sait qu'avant le retour de Christ, il y a des grands événements qui vont se déclencher à un moment donné. Mais il faudra, nous, que nous soyons prêts et que nous soyons déterminés et que nous soyons proches de Dieu avant que les grands événements se déclenchent, parce qu'on devra déjà être solide et persévérant quand ça va arriver, pour être capable de passer à travers. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Allez dans Hébreux chapitre 10. On a une indication de ça à ce moment-là. Hébreux chapitre 10. Versets 38 et 39. Mon juste, c'est-à-dire celui qui est appelé à pratiquer la justice de Dieu. Quand Dieu nous appelle, il nous montre quelle est la vraie justice et il dit « Marchez dans mes voies, dans ma justice ». Mon juste, celui qui pratique la justice, vivra par la foi. Oui, parce qu'il croit Dieu et il s'applique à faire ce que Dieu lui demande. Mais s'il se retire, s'il ralentit, s'il reste en arrière, s'il se détourne, s'il regrette ce qu'il a laissé, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. De la part de Dieu, c'est une déclaration lourde. Verset 39, « Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme, pour arriver au but, pour réussir par la force de Dieu. » Et regardez le verset 37, « Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. » Ça, il faut le garder en tête. Nous, on ne sait pas le moment exact, mais on sait que ça s'en vient. Et on voit par les choses qui sont sur la scène mondiale, la réalisation de nombreuses prophéties, que c'est tout proche. Allez à 1 Corinthiens maintenant, chapitre 16, s'il vous plaît. 1 Corinthiens, chapitre 16. Un premier moyen pour être ferme, pour être solide, je l'ai mentionné rapidement tantôt, c'est de chercher Dieu de tout notre cœur. De lui demander, ça veut dire le prier chaque jour, lui parler chaque jour, marcher avec lui. On n'a pas le choix. Si on veut que Dieu intervienne au moment crucial qui viendront, il faudra être déjà proche de lui. C'est ce que ça veut dire. Il faudra avoir les yeux, non pas sur Sodome, mais sur ce qui s'en vient, sur la libération de l'humanité, sur nos responsabilités et sur le Christ. Un autre moyen, c'est de rester alerte. Ça fait partie de ça, dans le fond. Rester alerte, rester vigilant pour vivre sans levain. Quand on va partir à la fin de la journée, qu'on va retourner chez nous, que la fête des pains sans levain va prendre fin avec le coucher du soleil, il faudra qu'on garde à l'esprit, tout au long de l'année, l'esprit des pains sans levain. C'est-à-dire, il faut que je continue à me purifier. Il faut que je fasse les choses que je dois faire pour me mettre en garde contre ce qui peut me faire tomber et travailler à l'éliminer. Ça n'arrivera pas tout d'un coup. Vous ne réussirez pas tout d'un coup et moi non plus. Sauf qu'il faudra être en train de le faire, de continuer à vivre le plus possible sans levain. Et notre but, c'est d'arriver un jour à être capable d'être sans levain totalement. Mais ça, c'est Dieu qui va nous le donner, si on est en train de faire ça lorsque le Christ va revenir. 1 Corinthiens 16 et le verset 13. Veillez, demeurez ferme. C'est le thème de mon sermon. Demeurez ferme dans la foi. Nous savons ce qui vient. Nous connaissons Dieu. Il faut demeurer ferme là-dedans et alimenter notre foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et c'est pour ça que M. Meredith insiste tellement sur le fait qu'on doit chaque jour étudier la Bible, nous nourrir continuellement du Christ. Et la Bible, c'est le Christ en écrit. C'est sa façon de penser, sa façon de voir. Alors, demeurez ferme dans la foi. Soyez des hommes. Fortifiez-vous. Donc, il faut veiller. Et la vraie foi, peut-être ça va vous surprendre, mais ce n'est pas de croire en Dieu. Je vais plus loin, c'est de croire Dieu et agir. La vraie foi, c'est agir selon ce que nous savons. Ce n'est pas juste de penser qu'on est correct parce qu'on sait. La connaissance ne sert à rien dans ce sens-là. La Bible dit clairement que les démons connaissent très bien Dieu. Et ils tremblent, mais ils n'obéissent pas à Dieu. Comprenez-vous? Alors nous, on doit travailler pour agir. 1 Corinthiens 15, juste un peu avant, mais la même page, un peu avant. 1 Corinthiens 15, versets 57 et 58. « Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Et ça, c'est la grosse clé de notre victoire. C'est la grosse clé de notre cheminement. C'est la grosse clé des combats qu'on a amenés avec succès. Ça vient du Christ. C'est pour ça qu'on doit être proche de lui, qu'on doit lui demander. Et quand il arrive une difficulté ou une tentation, il faut s'éloigner de la tentation et tout de suite demander au Christ d'intervenir en nous, lui qui est le chef de l'armée de l'Éternel. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes. Il revient encore là-dessus. Et une façon d'être ferme, c'est de supplier le Christ de combattre en nous et de combattre pour nous nos combats. Parfois, il arrive une tentation ou une difficulté, puis là, on essaie de l'éliminer, de la vaincre. Oui, c'est correct. Mais on ne commence pas par crier en haut pour dire, « Seigneur Jésus, tu es mon grand frère, tu es le chef de l'armée de l'Éternel, tu es le Tout-Puissant aussi, aide-moi. C'est toi que j'ai besoin pour être capable de passer à travers. » Et plusieurs d'entre vous ici avez vécu des expériences extraordinaires de ce côté-là. Vous avez demandé et vous avez reçu, parce que c'est une promesse. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Oh non, ça ne sera pas vain. Ça va vous conduire vers une vie heureuse, inimaginable. Et même actuellement, vous aurez l'encouragement dont vous avez besoin, quelles que soient les circonstances. Et il y a des gens qui ont fait partie de l'Église, qui se sont endormis du sommeil de la mort maintenant, et qui ont passé par des épreuves épouvantables, mais qui ont été fermes, qui ont eu des moments de grand encouragement, des moments plus difficiles, mais qui ont continué à marcher, comme quelqu'un qui marche dans une tempête de neige pour se rendre, pour aller chercher du secours, par exemple. Ça a déjà arrivé. Rester en panne en voiture dans une grande tempête de neige puis chercher à aller avoir du secours, devoir persévérer pour trouver un endroit. C'est la même chose au point de vue de notre salut. Maintenant, un autre moyen, c'est de se rappeler aussi continuellement qui nous sommes. Se rappeler qui nous sommes. Pas se penser plus fort qu'on est. Et pas se penser au-delà des circonstances ou dire « j'ai vaincu telle affaire ». Oui, on peut avoir vaincu des choses. Moi, je sais que j'ai vaincu la cigarette. Puis pourtant, j'étais un adepte. Quand on parle d'addiction ou de dépendance, je fumais 3 gros paquets de cigarettes par jour. J'avais plusieurs paquets dans mon bureau, j'en avais plusieurs dans ma voiture, et je ne pouvais pas me coucher le soir sans avoir un paquet plein à la maison. Ça vous donne un petit peu une idée. Mon ami qui était médecin m'avait dit « Vous ne durerez pas longtemps à fumer comme vous fumez. » Alors, voyez-vous, j'ai arrêté et je suis content parce que ça me détruisait. Mais je sais très bien, je n'ai pas le goût de fumer, mais je sais très bien que si je retouchais au tabac, que j'aimerais ça encore, Comprenez-vous? Alors, il faut que je me tienne loin de ça. Il faut que je sache que de moi-même, je n'ai aucune force et que mes anciennes fautes peuvent très bien me retrouver, me rejoindre, et que je serai sensible à ça. Et c'est pour ça qu'il faut que j'établisse un plan pour limiter ces choses-là, pour ne pas m'exposer. La même chose avec n'importe quelle faiblesse qu'on peut avoir. Ne pas s'exposer, s'éloigner de ces choses-là. Ça, c'est vivre dans l'esprit des pains sans levain. S'il y a des choses qui me dérangent, par exemple, sur Internet, il faut que je limite Internet. S'il y a des choses qui m'amènent à pécher, si je regarde des choses que je n'ai pas à regarder sur Internet, il faut que je coupe ça complètement. Quitte à limiter beaucoup mes heures ou mes demi-heures de regarder sur Internet et de choisir de cibler les choses que je peux regarder et qui peuvent m'amener à développer le caractère de Dieu et non pas à le détruire en regardant des choses qui m'amènent à pécher. Alors, se rappeler qui nous sommes. La Bible dit très bien que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Et c'est vrai pour les membres de l'Église, et c'est vrai pour les membres de l'Église qui sont là depuis des années aussi. Ne pas se penser solide. La seule solidité que j'ai et que vous avez, elle vient de Dieu. Si je pense que je suis solide, je me trompe. Et la vraie solidité doit me venir encore de Dieu. Et que je me rappelle aussi, en plus du fait de me rappeler qui je suis rien, que je n'ai pas de force de moi-même, me rappeler sur qui je peux compter et sur qui je dois compter. Allez dans Philippiens chapitre 3, s'il vous plaît. Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. On va lire les versets 20 et 21. Nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation, nous sommes rien actuellement, en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Le Christ a tout pouvoir. On le voit à d'autres endroits dans la Bible. Il dit, « Mon Père m'a donné tout pouvoir sur la terre et au ciel. » Et c'est lui qui va nous donner le pouvoir de vaincre, d'éliminer nos fautes, nos faiblesses. Regardez le chapitre 4, juste un peu plus loin. Verset 1. « C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne. » Et c'est vrai que Paul était attaché aux membres de l'Église. Comme les ministres de l'Église de Dieu sont attachés aux membres de l'Église. Moi, je suis attaché à vous autres. Je suis attaché aux membres de l'Église que je connais dans d'autres pays, dont j'entends parler, que j'ai déjà rencontré dans le passé. Ce sont les membres de ma famille. Et il y a des liens de l'esprit, et ce sont des liens qui sont plus forts que les liens du sang. Vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez aussi fermes. Il revient encore là-dessus. Dans le Seigneur, mes bien-aimés, demeurez fermes. Et regardez le verset 4. Maintenant, il nous dit comment demeurer fermes. Comment exercer une maîtrise sur nos pensées, sur nos émotions. Parce que toute la démarche de développer le caractère de Dieu, c'est d'apprendre à développer une maîtrise sur nos pensées, sur nos émotions, sur nos réactions, en demandant à Dieu, par son esprit, de nous aider de faire les choses de bonne façon. Et plus on le fait dans la bonne direction, plus on devient capable de le faire et plus on aime à le faire. C'est pour ça que David disait « Combien j'aime ta loi ». Regardez ce que Paul dit ici de faire pour être ferme. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, « Réjouissez-vous ». Et s'il y en a un qui aurait eu des raisons de ne pas se réjouir, c'était l'apôtre Paul qui a été battu, torturé, qui a été rejeté même par beaucoup de gens de l'Église à l'époque. Et lui, il disait « Soyez toujours joyeux ». Pourquoi être joyeux? Pas parce qu'on déborde d'une joie humaine dans ce sens-là, mais on sait où on s'en va. On sait qui est notre protecteur. On sait qui est notre Dieu. On sait ce qui s'en vient. On sait sur qui on peut compter. Et c'est pour ça qu'on peut avoir cette joie-là, cette paix intérieure. Il dit, soyez toujours joyeux. Vous savez où vous vous en allez. OK, il y a des douleurs maintenant. Il y a des difficultés. Mais efforcez-vous à être joyeux. Demandez au Christ de vous donner sa joie. Avez-vous déjà demandé ça? Donne-moi ta joie, quelles que soient les circonstances. Donne-moi ta force, donne-moi ta foi, donne-moi ton courage. Tout nous vient de lui. Soyez toujours joyeux. Verset 5, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Notre patience, notre douceur. On ne l'était pas tous doux et patients avant. Encore des fois, on a besoin de changer encore, on a des choses à améliorer de ce côté-là. Mais il dit, si vous êtes des enfants de Dieu, ça doit paraître. Et les gens autour doivent pouvoir l'apprécier. Que votre douceur soit connue des hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. On peut être porté à s'inquiéter, surtout quand on voit les situations mondiales changer comme elles le font. Ou comme on voit dans nos familles des situations arriver qui sont malheureuses, qui font mal en dedans. Mais il dit bien, quelles que soient les circonstances, ne mettez pas l'accent sur vous inquiéter de ça. Ne vous inquiétez de rien. Pourquoi? Moi, je vous dis, parce qu'il faut mettre ces choses-là dans les mains du grand patron, dans les mains du Christ, dans les mains de Dieu. Nos difficultés, nos problèmes, nos misères, nos souffrances, nos inquiétudes pour nous, pour les autres. Remettre ça dans ses mains. Vous ne pensez pas qu'il ne répondra pas? Parce qu'il veut que vous arriviez au but. Il veut vous rendre ferme. Mais il veut que vous lui demandiez et que vous soyez proche de lui. Que vos yeux soient sur lui et non pas sur le bobo. Parce que souvent, quand on a des difficultés ou des problèmes, on gratte le bobo, on revient là-dessus et ça fait encore plus mal et le bobo n'a pas la chance de guérir. Il faut vraiment tourner nos yeux vers celui qui peut tout. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose là, misère, malheur, souffrance, perte, tout ce que vous voulez, circonstances inquiétantes, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et des fois, il faut vraiment littéralement supplier Dieu. M. Meredith en parle souvent, de la façon de prier avec notre cœur intensément. Supplier Dieu avec des actions de grâce. C'est-à-dire toujours remercier Dieu. D'ailleurs, M. Appartient nous disait, commencez vos prières en remerciant Dieu. Et vous allez voir, ça change déjà notre optique. Et c'est vrai, je le fais, j'ai développé de le faire depuis ce temps-là, puis il faut que je le développe encore davantage. Mais quand on va devant Dieu et qu'on commence par lui dire merci de tout ce qu'il a fait pour l'humanité, pour la délivrance de l'humanité, pour l'œuvre et pour nous, là, on est déjà dans une perspective positive qui nous aide, qui nous encourage. Avec action de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et après, il dit que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est bon soit l'objet de vos pensées. Perdez pas votre temps à penser à des choses négatives, à retourner en arrière et à regretter des choses. Allez vers ce qui vient. Si vous regardez en arrière, si vous regrettez ces choses-là, vous allez ralentir, vous allez en souffrir et vous êtes à risque de ralentir encore davantage. Plus on gratte le bobo, plus le bobo fait mal et plus il prend de temps à guérir. Et après ça, l'autre moyen, un autre moyen que je vous donne et que je dois utiliser, c'est de persévérer dans les luttes. De persévérer dans les luttes. C'est un cheminement qu'on doit faire vers la perfection. Ça ne se fait pas automatiquement. Et les luttes qu'on a à faire, on ne gagne pas du premier coup. Il faut vraiment persévérer et demander l'aide de Dieu pour ça. Allez dans Hébreux chapitre 4, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 4, un passage que je trouve tellement, tellement encourageant. Hébreux 4, versets 14 à 16. « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu. » Regardez ce qu'il dit après. « Demeurons fermes dans la foi que nous professons. » C'est vers lui qu'on regarde, lui qui est le chef, lui qui donne la foi et l'amène à la perfection. Il dit, « Nous avons un souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu. Demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. » Il connaît les situations humaines et il a les yeux sur chacun et chacune de ses petits frères et de ses petites sœurs. Il a été tenté comme nous. Il sait ce que c'est être tenté, mais lui n'a jamais péché en toute chose sans commettre le péché. Et regardez le verset 16, comment c'est encourageant. « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. » Comment est-ce qu'on peut s'approcher avec assurance du trône de la grâce? C'est le trône pour être pardonné, cela. Si je m'approche du trône de la grâce avec l'attitude de repentance, Dieu aide-moi à me purifier, à ne plus commettre telle chose, à m'améliorer. Là, je m'approche du trône avec la bonne attitude. Et là, je peux avoir l'assurance. Parce que si je continue à me repentir, Dieu va me pardonner. Dieu est miséricordieux et il pardonne à celui qui demande. Il dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de sa grâce, du trône de son pardon, afin d'obtenir miséricorde. Et bien sûr, quand je regrette d'avoir manqué mon coup, que je lui demande pardon, il me pardonne pour recevoir miséricorde et pour trouver grâce et le garder et pour être secouru dans nos besoins. Formidable. C'est là qu'est notre clé de succès, d'avoir les yeux sur le Christ et de rester fidèle là-dedans. Et c'est maintenant que nous devons nous affermir. Et c'est la base du courage, ça, cette fermeté-là dont je vous parle, avant que les temps plus difficiles ne soient là. Nos dirigeants dans l'Église nous le disent, c'est maintenant le temps de se préparer sérieusement. Et les événements mondiaux nous en parlent avec éloquence et nous disent que nous sommes rendus au seuil d'événements majeurs dans l'histoire du monde qui vont affecter l'ensemble de l'humanité. Job était un homme qui était solide, pas parfait. Job n'était pas parfait, mais il était solide, il était ferme avant d'avoir dû affronter l'épreuve finale, que probablement aucun d'entre nous n'auront à affronter une épreuve ou des épreuves aussi graves que celles que Job a affrontées. Et Dieu a dit de lui, vous irez voir dans Job 2, verset 3, en parlant de Job, il dit, « Il demeure ferme dans son intégrité. » Job était ferme dans son intégrité, selon son idéal, selon ce qu'il savait devoir faire pour plaire à Dieu. Comme Job, qui ne comprenait pas pourquoi ces choses lui arrivaient, ça arrive que nous aussi, il y a des choses qui nous arrivent qu'on ne comprend pas sur le moment. Là vient en compte la foi, de faire confiance à Dieu. Mets ta confiance en l'Éternel, alors il agira, mais en son temps et à sa façon. Il ne faut pas chercher à pousser les choses. Et plus on s'applique à pratiquer la justice de Dieu, plus on devient solide. La victoire appelle la victoire. Plus on a de gains, plus on est capable d'avoir de gains. C'est la même chose qu'au point de vue sportif. Plus on développe des talents sportifs, plus on est capable d'en développer, plus on est capable de réussir. Et plus on a d'assurance, malgré les circonstances, malgré les obstacles, malgré les creux de vagues. Un autre moyen, et ça c'est encourageant aussi, beaucoup, être attentif à ce que Dieu a fait. Rappelez-vous ce que Dieu a fait pour vous. Comment ça se fait que vous êtes ici aujourd'hui? Par où est-ce que vous êtes passé pour arriver là où vous êtes arrivé? Il y a quelqu'un qui vous a aidé à passer à travers tout ça. Si on s'en rappelle de ça, ça nous fortifie. Je parle d'être plus ferme. Ça nous raffermit. Parce qu'on dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a fait ça pour moi jusqu'à aujourd'hui. Il va me donner tout ce dont j'ai besoin pour terminer la route. C'est ça que ça veut dire. C'est pour ça que c'est bon de se rappeler d'où nous sommes venus. D'où Dieu nous a amenés. Il nous a amenés de très loin. Et d'être attentif à sa présence aussi. Parce que Dieu se manifeste quand on est proche de lui, quand on lui parle, il nous donne des signes, il se manifeste de différentes façons. Et ça, c'est encourageant aussi. Exemple d'Israël ancien, allons dans Exode chapitre 13, s'il vous plaît. Exode chapitre 13. On a beaucoup de leçons à apprendre d'Israël ancien. Exode chapitre 13. Ici, c'est au sortir d'Égypte, au moment où Dieu était directement avec eux. Il s'était manifesté dans la colonne de feu, dans la colonne de nuée. Exode chapitre 13, versets 20 à 22. Ils partirent de Succot et ils campèrent à Étham, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu durant la nuit. Et regardez le verset 14, c'est-à-dire le chapitre 14 et le verset 15. Après que le peuple ait recommencé à s'inquiéter, parce qu'il avait peur, l'armée de Pharaon était derrière eux, il était devant la mer Rouge, il était coincé. Et là, ils avaient peur, ils ont voulu s'en prendre à Moïse. Mais regardez ce que l'Éternel a dit ici, verset 15. L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi c'est écrit? » Autrement dit, pourquoi le peuple s'inquiète? On a vu tantôt, « Ne vous inquiétez de rien, comptez sur Dieu. » Plus on apprend à faire l'expérience de compter sur Dieu, plus ça devient facile, c'est la même chose. Mais eux, un, ils n'avaient pas l'esprit, Et c'était des premières expériences extraordinaires pour eux. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi c'est écrit? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent, qu'ils avancent. Autrement dit, qu'ils gardent le rythme. Qu'ils gardent le rythme dans ce que je vais leur montrer à faire. Qu'ils me fassent confiance. C'est ce que ça veut dire. Ça, c'était pour Israël physique. Nous, Israël spirituel. Cette colonne de feu-là et cette colonne de nuée-là, le Christ, ceux qui sont baptisés, ils l'ont en eux. Ceux qui ne sont pas encore baptisés, cette puissance-là, la présence de Christ, elle est avec vous, qui êtes appelés à l'Église, qui n'êtes pas encore baptisés, mais qui allez vers le baptême. Et c'est pour ça que M. Meredith insiste tant sur Galates 2, verset 20, qui dit « Ce n'est plus moi ». C'est Paul qui parlait à ce moment-là, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». Ça, c'est la colonne de feu, là. C'est le Dieu qui a fait les 10 grands miracles pour que le peuple sorte d'Égypte. C'est lui qui les a sortis. C'est pas eux. Eux ont marché, d'accord. Mais c'est eux, c'est lui qui leur a donné la force, qui les a dirigés, qui les a guidés. Et il dit qu'ils marchent, qu'ils suivent mes directives. Et quand on fait ça, on reste attaché à la vigne, on reste attaché au sept. L'exemple que le Christ donne dans Jean chapitre 15, je crois. Et notre foi devient plus ferme. Et notre foi devient plus ferme dans la mesure où on s'applique à marcher comme le Christ a marché, où on s'applique à marcher par la puissance du Christ, c'est ce que je vous explique, et où on s'applique à marcher pour le Christ, lui, le chef de l'armée de l'Éternel et le chef suprême de l'Église. Placer notre confiance en Dieu. Ses promesses sont irréversibles, y compris celle de nous rendre fermes, ce qu'on n'est pas capable de faire nous-mêmes. Psaume 125, psaume chapitre 125. Psaume 125, nous allons lire les versets 1 et 2. « Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. » Wow! Une montagne, ça ne bouge pas. Il dit, c'est comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Pourquoi? Elle est ferme. Si vous regardez d'immenses montagnes, ce sont des immenses rochers dans le fond. Et il n'y a rien qui peut faire bouger ça. C'est solide. Et il compare à ça. « Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. » Pourquoi? Parce que l'Éternel les soutient et donne la force à cette montagne-là. Et si la montagne de Sion tient le coup, c'est parce que Dieu la soutient. Et si nous tenons le coup, c'est parce que Dieu nous soutient, si nous sommes proches de lui. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. On est même entouré par un papa qui nous aime et qui veut notre bien dans toutes les circonstances que nous avons à traverser. Mais il faut le chercher, il faut rester proche de lui. Psaume 112. Psaume 112, s'il vous plaît. Verset 1. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Pas juste pour les savoir, mais pour travailler à en vivre. Psaume 112, verset 1. Regardez le verset 5. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête. Et c'est pour ça qu'on doit apprendre à pardonner aux autres, comme Dieu nous a pardonné, parce qu'à ce moment-là, on est sous la bénédiction de Dieu. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice. Et on est encore en train de régler nos actions d'après la justice de Dieu. Et on va le faire jusqu'au retour du Christ. Verset 7. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. On sait que la solution va toujours venir de lui, que l'aide va toujours venir de lui, même si nous avons à passer des épreuves majeures. Quand l'apôtre Paul a donné sa vie parce qu'il a été décapité un bon matin, Paul était ferme, il était déterminé à aller jusqu'au bout, quelles que soient les circonstances. Dans certains cas, Dieu a exigé ça de ses serviteurs. Dans d'autres cas, la plupart des cas, ce n'est pas la situation. Mais voyez-vous que ça doit être total. On doit être déterminé à suivre Dieu là où Dieu nous amène. Et c'est lui qui nous a fermis. C'est lui qui nous donne toutes choses, d'ailleurs. Je mangeais encore un petit morceau de pain sans levain ce matin. On achève de manger des pains sans levain, on en mange encore, je trouvais ça aussi délicieux qu'avant. Et je disais merci d'avoir ce pain sans levain-là. Si tu ne m'avais pas appelé, je ne te connaîtrais pas, je ne connaîtrais pas tes fêtes et je ne serais pas en train de vivre ce symbole-là en mangeant ce pain-là qui représente le Christ qui est parfait. Ce que je veux devenir, aide-moi Père à devenir comme ça, à continuer, à compter sur toi et à compter sur le Christ. Toutes choses nous viennent de lui. Avec la fête des pains sans levain, nous tournons notre cœur et nos pensées vers le but. C'est pour ça que je vous donne ce message-là aujourd'hui dans l'optique avec laquelle je vous le donne. Avec cette fête des pains sans levain-là, il faut tourner notre cœur vers le but et nos pensées vers le but. Non seulement vers le but, mais vers la victoire possible pour atteindre ce but-là par la puissance de Christ. Et c'est dans cette attitude-là qu'en quittant le dernier jour des pains sans levain, on va s'orienter déjà vers la Pentecôte, la prochaine fête de Dieu que nous allons célébrer. Parce qu'on vit à l'intérieur des fêtes de Dieu. C'est son plan. On fait partie de son plan. Il nous a appelés. Comprenez-vous pourquoi on continue dans l'esprit des pains sans levain, mais déjà, on a les yeux sur la fête de la Pentecôte qui s'en vient, où on va célébrer encore une autre étape du plan que Dieu est en train d'accomplir. Et il faut que je travaille d'ici là à continuer d'éliminer tout ce qui peut me déranger par rapport aux lois de Dieu, tout ce qui peut me ralentir, tout ce qui peut me détourner et tout ce qui pourrait m'empêcher d'arriver au but. Si je n'arrive pas au but, il y a un seul coupable. Il y aura un seul coupable si je ne réussis pas. Et c'est moi. C'est moi. Ce ne sera pas Dieu, parce que Dieu n'aura jamais abandonné. Dieu dit, je ne vous abandonnerai jamais, je ne vous délaisserai jamais. Faites ce que vous avez à faire. Et vous allez voir ce que je vais faire, moi, de mon côté. Il va nous porter, comme la Bible dit, sur des ailes d'aigle. Et souvent, on emploie cette expression-là, mon épouse et moi, quand on passe à travers des grosses épreuves, et puis il y a des choses comme impossibles qui sont arrivées, là, on dit, Dieu nous a encore portés sur des ailes d'aigle. C'est une belle image que Dieu donne, comme de quoi c'est lui qui nous délivre, c'est lui qui nous aide à passer à travers toutes sortes de circonstances. Mais moi, de mon côté, il faut que j'aille de l'avant, il faut que je garde le rythme. Je vous en ai parlé dans un autre message dernièrement. Le royaume de Dieu appartient à qui? Aux violents, à ceux qui sont zélés, à ceux qui sont déterminés, à ceux qui sont fermes, qui continuent malgré les circonstances. Éphésiens 1, Éphésiens chapitre 1, s'il vous plaît. On va lire le verset 20. Éphésiens 1, verset 20 à 22. Ici, il parle de la puissance que le Père a manifestée en ressuscitant le Christ. Il dit, il l'a déployée en Jésus-Christ, cette puissance-là, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, là où il est actuellement, en attendant le signal de son Père, qui va marquer en même temps, comme la Bible mentionne à Actes 3, verset 19, le temps de rétablissement de toutes choses sur la face de la terre. Alors, il dit, il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. On voit que Dieu a établi le Christ comme au-dessus de tout, excepté lui-même, parce que Dieu reste le gouverneur de l'univers, le Père du Christ. Mais il lui a donné tout pouvoir, comme j'ai mentionné tantôt, sur la terre et au ciel, et toute autorité. Et regardez verset 22, « Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. » Moi, j'aime tellement cette expression-là. Et parfois, j'en parle dans mes prières en parlant du Christ comme du chef suprême de l'Église. C'est le commandant en chef. C'est le chef de l'armée de l'Éternel. C'est lui qui nous guide, qui nous dirige, qui nous aime, qui nous soutient, qui nous délivre. Alors, il l'a donné comme chef suprême à l'Église qui est son corps. Et chaque membre qui est appelé fait partie de ce corps-là, de cet organisme spirituel-là. La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et ça donne une perspective sur ce que le Christ est en train d'accomplir et qui va mener à la plénitude ou à la perfection, si vous voulez. Alors, ça revient à dire qu'il faut garder les yeux sur le chef suprême de l'Église. Garder les yeux sur le but qui nous inspire tant, sur l'avenir extraordinaire qui nous attend si nous persévérons. Allez à Ésaïe chapitre 55, s'il vous plaît. Ésaïe chapitre 55. Regardez le verset 6. Et ça s'adresse à nous aujourd'hui. On aurait pu l'adresser directement aux gendres et aux filles de Lot qui étaient restées à Sodome. Mais ça s'applique à nous aujourd'hui qui sommes appelés, pendant qu'il reste encore du temps, un peu. Mais le temps se fait de plus en plus court et il faut prendre notre appel au sérieux. Et il faut utiliser les outils que Dieu nous encourage de nous donner. Et regardez la directive qu'il nous donne. « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. » Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Parce qu'on sait par la Bible que le jour va venir où l'Éternel ne se laissera plus trouver, où la porte sera fermée. Nous sommes à la période où on peut encore le trouver et s'approcher de lui pour avoir tout ce dont nous avons besoin pour réussir. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est proche ou qu'il est prêt et qu'il est disposé à répondre parce qu'il est en train de travailler à préparer ses enfants et à préparer la délivrance aussi prochaine de ceux qu'il appelle. Maintenant, gardez votre place ici, mais allons un peu plus loin à Ésaïe 65. On va voir le résultat qui arrive pour ceux qui cherchent l'Éternel de tout leur cœur. 65, nous allons lire les versets 8 à 10. « Ainsi parle l'Éternel. Quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit ne la détruis pas, car il y a là une bénédiction. Dieu dit, j'agirai de même pour l'amour de mes serviteurs. » Ça, c'est ses enfants au temps de la fin. Parce qu'ici, moi, j'ai mis une ligne bleue à côté de ça. Ça représente le royaume. Ça parle du royaume qui vient. Dieu dit, j'agirai de même pour l'amour de mes serviteurs, afin de ne pas tout détruire. Ça correspond à Matthieu 24, là. Quand il dit, la détresse sera si grande qu'il n'y en aura pas de pareil, qu'il n'y en aura pas eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura pas dans le futur. Et il dit, si ces jours n'étaient abrégés, si ces jours n'étaient arrêtés, les jours de la grande détresse, personne ne survivrait. C'est de ça qu'il est en train de parler ici, du temps de la fin. Il dit, j'aurai de même de l'amour pour mes serviteurs, parce qu'il va protéger ses serviteurs. Il y a une protection pour eux, afin de ne pas tout détruire. Et à cause de vous et de moi, si nous sommes fidèles, Dieu va éviter la destruction totale de l'humanité. C'est ça qu'il est en train de dire aussi. C'est beaucoup. Et ça nous montre à quel point Dieu considère important ses filles et ses fils qu'il appelle maintenant. Il dit, j'agirai de même pour l'amour de mes serviteurs, afin de ne pas tout détruire. Je ferai sortir de Jacob une postérité et de Juda un héritier de mes montagnes. Mes élus posséderont le pays. On parle du monde à venir. Et mes serviteurs y habiteront. Le Saron servira de pâturage au menu bétail. Et la vallée d'Accor servira de gîte au gros bétail. Il parle ici comment ça va être une période de belle agriculture, comment les choses seront belles. Pour mon peuple qui m'aura cherché. Pour mon peuple qui m'aura cherché. C'est pour ça que je reviens maintenant à Ésaïe. Ce qu'on était en train de lire, Ésaïe 55, tantôt quand il dit au verset 6, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. » C'est encore temps pour nous. C'est comme si Dieu tendait la main, nous envoyait ses serviteurs pour dire, « Préparez-vous. Préparez-vous à quelque chose de grand, quelque chose de différent. Préparez-vous en vous affermissant pour être capable de passer à travers parce que je vous amène à quelque chose d'extraordinaire, quelque chose d'encourageant et de beau. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Parce que tout commence dans la pensée. Et c'est pour ça qu'on doit continuer, nous, dans les semaines à venir, vers la Pentecôte, à travailler sur nos pensées pour rejeter ce qui n'est pas de Dieu. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voies ne sont pas mes voies. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné la semence au semeur et du pain à celui qui mange. C'est une comparaison qu'il fait avec sa parole. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Autrement dit, le plan de Dieu, que nous soyons là ou non, va se réaliser à la lettre. Ce qu'il a dit va arriver. Ce qu'il a dit dans le passé, une grande partie de ça, on le voit dans les prophéties, se sont déjà réalisés. Mais ce qui reste à faire va se réaliser. Et regardez ce qui nous attend après. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous. Et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine, s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce, croîtra le myrte. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Ce sera sa famille, ses enfants devenus des êtres immortels, un monument impérissable, un monument éternel. Vous savez, chaque année, à la fête des pains sans levain, c'est un recommencement. On commence une autre année. L'année sacrée vient de commencer. C'est le temps de redémarrer sur un bon pied, de remettre en place les choses qu'il faut pour s'approcher de Dieu et être fortifié pour devenir encore plus ferme, avoir une ardeur nouvelle et une joie nouvelle. Un peu comme David a dit, « Je choisis d'être ferme et Dieu me rend ferme vers la vie éternelle. » Paul a dit aussi, « Je peux tout par celui qui me fortifie. » Et ça, c'est notre garantie, c'est la promesse de Dieu. Si nous faisons notre part, lui va faire la sienne et il va nous amener à bon terme. Alors, la fête des pains sans levain, c'est l'occasion d'un recommencement avec l'assurance qu'on peut avoir toute l'aide nécessaire pour arriver à la victoire. Et dans l'année qui vient, de faire plus de chemin spirituellement qu'on n'a fait l'année dernière. Et ça, c'est l'histoire de la sortie d'Égypte pour nos ancêtres. C'est l'histoire de la sortie de Sodome pour Lot et ses deux filles. C'est l'histoire de notre sortie de l'Égypte moderne et de notre future victoire totale par le Christ à la gloire du gouverneur de l'univers.